Bonjour à vous toutes et vous tous. Nous sommes le 17 mars 2017. C'est le National, présenté pour vous sur Canal M par Clotilde Seille, avec des sujets d'intérêt, du moins nous semble-t-il, pour tous les francophones au Québec et au Canada que nous avons trouvés dans nos émissions présentées cette semaine sur nos ondes. Alors on commence avec « C'est bon pour la santé ». Alors que Marianne Paquette va parler de la rétinopathie diabétique, première cause de cécité partout dans le monde et au Canada. Et on va parler aussi de télémédecine, tout cela avec la docteure Marie-Carole Boucher, ophtalmologue à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont.
Mieux traiter la rétinopathie diabétique grâce à la technologie moderne, c'est possible, c'est l'initiative du docteur Marie-Carole Boucher, ophtalmologue à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Docteur Boucher, bonjour.
Bonjour, Madame Paquette.
Cette initiative vient d'un ras-le-bol, un constat de dire cette maladie peut être bien traitée, mieux traitée, et comment on y arrive. Tout était là et suffisait, c'est-à-dire les technologies étaient là, il suffisait de les mettre en place et d'aller de l'avant.
Voilà, voilà. Mais vous savez, d'abord la rétinopathie diabétique, les complications du diabète dans l'œil, c'est la première cause de cécité hein, dans tous les pays développés et ici au Québec, ici au Canada. Et c'est une maladie qui se traite facilement. Les traitements sont pas dispendieux, les traitements sont disponibles partout, sont très efficaces. Je dis toujours, sont aussi efficaces que les antibiotiques pour traiter la pneumonie. Alors, comment se fait-il que ce soit la première cause de cécité? Et on peut se poser la question aussi dans un système de santé comme le nôtre, qui est quand même organisé, gratuit, disponible pour tout le monde. Et le problème, c'est que c'est une maladie qui donne peu ou pas de symptômes, même quand elle est rendue à des stades graves, avancés. Et à un moment donné, les symptômes se déclarent rapidement et la maladie et nous oblige à faire des interventions qui sont importantes, coûteuses et qui permettent pas toujours de récupérer la vision comme avant. C'est une maladie qui évolue très lentement et qu'on peut voir. Même si elle ne donne pas de symptômes, on peut la voir quand on examine les yeux. Malheureusement, les patients ne peuvent pas examiner leurs yeux comme on peut examiner, par exemple, une verrue ou un petit bouton sur notre peau. Donc, ça prend quelqu'un qui regarde. C'est une maladie aussi qui est très bien connue, dont on connaît tous les stades d'évolution et qui demande une certaine expertise pour savoir quand est-ce qu'on doit la référer, quand est-ce qu'on doit la traiter.
Oui.
Donc, pour faire les choses simples, ce qu'on a voulu faire, c'est permettre un accès à un dépistage facile, pas compliqué, et de qualité médicale pour permettre à chacun d'avoir accès à un dépistage régulier, puis d'être vu par un médecin s'il a besoin de traitement ou de suivi d'une prise en charge.
Ce programme de télémédecine que vous avez mis en place, qu'est-ce qu'il permet concrètement de mieux détecter la maladie ou de mieux détecter son évolution?
En fait, vous parlez de programmes, ce sont des services qui ont été mis en place dans le cadre de projets pilotes qui se font dans deux C3S, un qui est attaché à l'Université McGill, C3S à la Montagne, et un qui est attaché à l'Université de Montréal, qui est le C3S de Pointe-de-l'Île. Alors, les patients vont dans ces C3S, on prend des images de leurs yeux, des photos avec des caméras spéciale. Et ces photos-là sont envoyées par des moyens de télécommunication sécurisés là, avec des données de santé et des médecins spécialistes, des rétinologues accèdent à ces données-là, interprètent la pathologie et constatent s'il y a maladie ou non. Et quand il y a une maladie significative, le patient est intégré dans son corridor de service naturel pour avoir des soins au moment où ils en ont besoin. Et la beauté aussi de la chose, c'est que tous les médecins qui sont impliqués dans les soins de ces personnes diabétiques reçoivent un rapport qui fait état de l'évolution puis l'état des problèmes des yeux de leurs patients. Les patients reçoivent aussi une lettre hein, qui leur dit il n'y a pas de problème, tout va bien, il faudrait que vous soyez examiné, réexaminé dans un an ou dans deux ans, ou s'il y a quelque chose, on a constaté quelque chose et vous avez un examen qui est cédulé avec tel médecin à telle heure, tel endroit.
Donc, de voir davantage de gens, de faire de meilleurs suivis, et surtout, c'est le bon moment que je retiens de les voir au bon moment, ou du moins d'avoir le constat de leur maladie, de l'évolution, encore là, au bon moment pour mieux prévenir.
Voilà, c'est vraiment le bon patient au bon endroit, au bon moment.
Oui.
Alors, quand on prend, par exemple, 100 personnes diabétiques, de ces 100 personnes-là, il y en a 80 qui n'auront pas de problème au moment où on les examine. Il y en a 20 qui vont avoir une rétinopathie diabétique et de ces 20-là, il y en a 10 qui vont avoir une rétinopathie diabétique qui est à risque de leur faire perdre la vision à tout moment. OK? Mais de ces 100 personnes-là, personne n'a de symptômes. Alors, pour trouver les 10 qui ont des problèmes à risque, là, il faut examiner les 100. Alors, il faut le faire de façon efficace, donner l'accès à tout le monde. Il faut que ce soit facile, il faut que ce soit peu coûteux. Et puis, on veut pas que ces 100 personnes-là aient à examiner, par exemple, 80 patients dans le bureau du médecin qui n'ont pas de pathologie ou qui n'ont pas besoin de prise en charge immédiate. Alors, pour trouver ces 10 patients-là, il faut en examiner 100.
Oui.
Alors, en procédant comme ça, on se trouve à dépister les 10 personnes qui ont besoin d'être prises en charge et sont prises en charge au moment approprié.
Et ça permet de joindre aussi des personnes en région éloignée, même parfois très éloignée. Je parle ici des communautés autochtones qui sont davantage touchées peut-être par le diabète, donc plus à risque de développer une rétinopathie diabétique.
Oui, ben en fait, toutes les populations le diabète, c'est vraiment une épidémie.
Oui.
Et c'est présent et chez les autochtones comme chez nous, les populations caucasiennes. C'est sûr que les personnes autochtones ont plus, probablement des raisons génétiques, ont plus de pathologies, de complications de diabète dans les yeux que les populations urbaines, par exemple. Mais les deux ont des problèmes importants. Alors, en effet, il y a un programme qui permet à 9 communautés dans la région de la baie James de recevoir le dépistage de la rétinopathie diabétique comme ça et de leur permettre d'avoir accès à un examen donc localement et de ne pas avoir à voyager sur de longues distances pour avoir un examen. Ensuite, elles sont vues par le médecin au moment où ils ont besoin d'un traitement le plus possible.
Docteur Boucher, il reste à peu près une minute à cette discussion. Je comprends que c'est un projet pilote. Quelles seront l'évolution ou les évolutions de ce projet-là pour desservir un maximum de personnes dans les prochaines années?
Alors, évidemment, ces projets-là sont à l'étude par le ministère de la Santé et ce qu'on espère, c'est qu'ils vont être rendus, vont être pérennisés, et les services actuels, et on espère pouvoir les étendre à l'ensemble des populations des grandes villes et à travers la province. Alors, c'est notre espoir.
Et peut-être, ça servira éventuellement à mieux traiter, mieux prévenir d'autres pathologies oculaires. Et ben, vous serez l'une des pionnières avec cette initiative très, très avant-gardiste. Docteur Marie-Carole Boucher, vous êtes ophtalmologue, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Merci beaucoup de nous avoir bien vulgarisé ce projet qui est fort utile.
Si vous me permettez de conclure,
quelques secondes.
On a un programme semblable en Angleterre depuis 2003 et le diabète n'est plus depuis 2 ans la première cause de cécité là-bas grâce à des programmes semblables.
C'est important
J'espère
de le souligner.
J'espère qu'on fera la même chose chez nous.
Merci, Dr Boucher.
Ah, jeune et centenaire, ça vous tenterait, hein? Eh bien, écoutons voir ce que le Dr Jude Poirier, qui a signé un livre qui s'intitule comme cela, avait à dire à Marianne Paquette le 15 mars dernier.
Jeune et centenaire, nouveau titre publié par Jude Poirier aux éditions Trécaré. Jude Poirier, qui est professeur titulaire à l'Université McGill, directeur de la recherche sur le vieillissement, la cognition et la maladie d'Alzheimer du côté du Centre de recherche de l'Institut universitaire de santé mentale Douglas. Jude Poirier, bonjour.
Bonjour.
Un plaisir de vous reparler aujourd'hui. Jeune et centenaire, et ça vous le dites d'entrée de jeu dans votre livre, ça ne sera pas une des recettes miracles, il n'y a pas de fruits miraculeux ou de super aliments pour contrer le vieillissement. Et d'ailleurs, votre bouquin est vraiment basé sur des recherches très étayées.
En fait, c'est ça. Depuis une vingtaine d'années que je donne des conférences grand public, surtout sur la maladie d'Alzheimer, mais aussi sur ce qu'on appelle le vieillissement en santé. Mm-hmm. Et j'ai toujours des questions à la fin sur tel extrait miraculeux de ginkgo, de ci, de ça, ou d'huile de patate, des machins comme ça. Et là, évidemment, j'essaie d'expliquer aux gens, il y a une différence entre évaluer de façon rigoureuse, critique, les qualités d'un aliment supposément bénéfique, selon les critères scientifiques ou tout simplement selon ce qu'on souhaiterait bien voir à la fin. Et c'est un peu pour ça que j'ai écrit ce bouquin-là.
Oui. J'ai été surprise d'apprendre que, on le sait, la population est de plus en plus vieillissante, mais il y avait plus de centenaires ici au Québec et partout dans le monde que je le pensais. Quel est le lien ou l'impact de la science, des technologies dans cette quête ou, disons, ce chemin vers un vieillissement, une longévité toujours plus longue?
Bien, je pense qu'il faut comprendre que c'est un phénomène récent, mais qui va à une vitesse incroyable.
Oui.
On double le nombre de centenaires à toutes les 9 ans. Donc, vous faites un calcul. En mathématiques, on appelle ça une progression exponentielle. Donc, dans 100 ans, il va y en avoir beaucoup. Si on regarde tout simplement l'espérance de vie moyenne dans, disons, le monde occidental depuis les années 70, on ajoute systématiquement à toutes les 10 ans de 2 à 3 ans de longévité.
Mm-hmm.
Et ce, systématiquement depuis les années 70. Et selon les derniers chiffres que j'ai vus de l'Organisation mondiale de la santé, depuis les années 2000, on accélérait. Ce serait plus de l'ordre de 3 à 4 que de 2 à 3. Et il y a des pays comme l'Afrique où finalement, on a des efforts de sensibilisation, un déploiement de ce que j'appellerais la médecine minimaliste, là, des vaccins, certains vaccins, certains antibiotiques. Et là, on parle de 5 ans d'augmentation de longévité à toutes les 10 ans pour certains pays d'Afrique. Donc, c'est vraiment un phénomène contemporain, mais avec lequel, évidemment, il va falloir qu'on apprenne à vivre.
Oui. Grâce à la science, grâce aux technologies, il y a toujours, bien sûr, la génétique qui pèse dans la balance.
Oui, ça, il faut le dire, il faut le répéter. Je pense que tout le monde a entendu, on sait bien dans cette famille-là, ils vivent longtemps. Il y a une histoire familiale de 90 ans, de 100 ans dans cette famille-là. On estime à peu près à 30 % le poids génétique ou la contribution génétique au centenariat. Le reste, bien là, on va en revenir à des choses que les gens sont tannés d'entendre.
Oui.
L'alimentation, style de vie et l'exercice.
Voilà.
Ou disons, activité physique dans son sens le plus large.
C'est pas plus compliqué que ça. Toutefois, il y a quand même une nuance que l'on entend parler de plus en plus, notamment en lien avec l'alimentation, c'est l'apport calorique. Il me semble qu'avant, on n'entendait pas tant parler de ça, et maintenant, de plus en plus, qu'est-ce qu'on met dans notre assiette? Oui, mais combien on met dans notre assiette a un lien sur la longévité?
Oui. En fait, les premiers travaux, ils sont pas récents. En 1920, un collègue américain qui décide, et je pense par un concours de circonstances, d'examiner ce qui arriverait à une population de gros rats dodus de laboratoire s'il soustrayait 40 à 50 % des calories que les animaux consomment à tous les jours, et ça de la naissance jusqu'à la fin de leur vie. Et son but, lui, c'était de voir beaucoup plus l'impact de certaines maladies comme le diabète qui est lié à l'obésité, évidemment à la nourriture, puis des choses comme ça. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est aperçu après 3 ans d'études suivies de plusieurs colonies, que quand on coupe les calories de 40 % chez nos gros rats de laboratoire, ils vivent 30 % plus longtemps.
Mm-hmm.
Chez l'humain, ce serait presque 25-30 40 ans de plus. Ce serait énorme si on arrivait à faire ça. Ils ont répété ça dans d'autres, avec d'autres animaux, dans d'autres situations. Il est devenu très, très clair que la façon dont on gère les calories, soit en les brûlant sous forme d'exercices de tout genre ou d'activités, appelons-les physiques quotidiennes, ou qu'on les mange et quelle qualité de calories on mange, va avoir un impact, évidemment, pas sur une petite période de temps, mais sur une longue période de temps, sur nos chances ou nos risques de ne pas être centenaire.
Oui. Saines habitudes de vie, comme vous le disiez, Jude Poirier, des fois, on est un peu tanné d'entendre ça, alimentation, exercice. Mais il y a un autre aspect dans le vieillissement en santé, c'est notre personnalité ou la façon dont on entrevoit la vie.
Oui. Si vous me permettez, j'aimerais ça vous parler d'une magnifique étude qui a été menée pendant une vingtaine d'années en France où on a examiné des centenaires, un grand groupe de centenaires. Et ils ont fait ça de deux façons. Ils ont regardé d'une part, ils ont interviewé des centenaires, puis ils leur ont demandé « Pourquoi pensez-vous? Comment êtes-vous appelé centenaire? » Et là, ça devient amusant parce que vous avez 50 000 réponses différentes.
Ouais.
Pour un, c'était le verre de vin. Pour l'autre, c'était ne pas boire de vin.
Mm-hmm.
Pour le suivant, c'était une cuillerée de miel. Bref, on avait autant de réponses qu'on avait d'individus. Mais quand on a posé la question aux gens qui entourent les centenaires, donc les familles proches, des gens qui ont vécu avec des centenaires, souvent des frères, des sœurs plus jeunes, là, on voit apparaître vraiment des choses claires. Quand on parle personnalité, qu'est-ce qui ressort? C'est des gens qui sont d'une nature gaie. Des gens optimistes, confiants en l'avenir. Ce sont aussi des gens sociables. Et ça, il y a de belles études scientifiques qui ont montré que la solitude, en fin de vie, est associée à une vie plus courte, donc une espérance de vie moins longue. Des gens qui ont donc confiance en l'avenir, des gens qui aiment la compagnie, et c'est des gens qui, littéralement, refusent de s'effacer de la société. Ils veulent participer. Puis en fait, je me rappelle, il y a quelques années, j'avais fait une très belle table ronde avec une dizaine de centenaires à Radio-Canada. Et c'était drôle. C'était pas le chercheur que j'étais ou l'animateur qui avait été difficile à asseoir à la table. C'était de trouver les agendas de tout le monde. Ils étaient tous occupés, ces gens-là. Ça n'avait pas de bon sens.
Et vous le dites dans ce livre, je trouve important de le dire, de le redire, des gens qui sont restés le plus longtemps possible au sein de leur famille.
Et oui, et ça, c'est, je dirais, la grande caractéristique. Il y a des chercheurs qui ont regardé, vous savez, il y a des zones à travers le monde qu'on appelle les zones bleues, où il y a des augmentations, j'aimerais dire une prévalence beaucoup plus augmentée de centenaires que, disons, dans la moyenne ou dans la région ou une région du monde particulière. Il y a 5 régions où on a beaucoup de centenaires. Et la majorité, donc 4 sur 5, sont des îles. Et sur ces îles-là, évidemment, on a des gens qui font quoi? On a des gens qui ont tendance à manger des dérivés de la pêche. Donc, on mange du poisson, on mange des viandes blanches, on mange pas de viande rouge. Évidemment, comme c'est des îles, on se déplace généralement à pied. C'est plus facile, c'est moins compliqué. La voiture est tout à tout fin pratique, inutile. Donc, on bouge. Et on a aussi des gens qui, d'un point de vue fonctionnel, vieillissent entourés de leur famille. Et ça, c'est un trait de caractéristique, autant du côté d'Okinawa, du côté japonais, que du côté de la Grèce ou
de l'Italie. Voilà, et même en Californie. Quel est l'autre endroit qui nous manque?
Près du Costa Rica, une autre île.
Voilà, c'est ça.
Qui est près du Costa Rica. Et encore une fois, où c'est de tradition de vivre entouré de sa famille jusqu'à un très grand âge.
Oui. Jude Poirier, nos enfants vivront jusqu'à quel âge à peu près?
Bien, selon les études démographiques menées en 2015, il y aurait un enfant sur deux qui naissent ces jours-ci, qui deviendrait centenaire. Donc, ça veut dire que dans une centaine d'années, on aurait une espérance de vie moyenne de 92 ans. Donc, un grand groupe de centenaires et aussi des gens de moins de 92 ans pour avoir une moyenne de 92. Aujourd'hui, au Québec, on parle de 80. les femmes 82-83, les hommes autour de 78. Donc, une augmentation incroyable, à mon avis, de cette espérance de vie, mais aussi de nos fameux centenaires et quelques, ce qu'on appelle, super centenaires.
Donc, en haut de 110 ans, c'est
ça? En haut de 110 ans. Aujourd'hui, il y a une chance sur mille d'un centenaire de devenir un super centenaire. Donc, on voit que atteindre 100 ans, ça veut dire qu'il y a peu de chances d'atteindre le super centenariat, mais ça va être de plus en plus facile avec le temps.
Mais en même temps, à la fin de votre livre, vous soulevez quand même un bémol, à savoir, c'est bien de vieillir en santé, vieillir longtemps, là, sur une longévité intéressante, mais est-ce que notre société est prête à recevoir ces personnes centenaires? Est-ce que nos infrastructures sont prêtes à ça?
Exactement. D'une part, et il faudrait qu'on abandonne cette espèce de façon de voir le monde. Vous savez, la fameuse âge de retraite à 65 ans, elle a été mise en place tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale parce qu'il y avait beaucoup de soldats, des hommes en majorité, revenaient de la guerre et il fallait leur trouver des emplois. Et on a créé ce concept de retraite à 65 ans, mais à l'époque, l'espérance de vie était de 63. Donc, le gouvernement s'attendait à payer un gros 2 ans de pension de vieillesse. Aujourd'hui, si on pense à 65 ans, mais avec une espérance de vie de 92, il est certain que le système est de santé et le système de soutien, dans le fond, de nos retraités sera incapable de survivre à ce genre de changement démographique.
Donc, c'est de revoir ces infrastructures, mais peut-être aussi notre regard sur les personnes âgées.
Effectivement. Et leur contribution. Moi, je suis à l'université. Vous savez, on ne peut pas nous forcer à la retraite. Et j'ai de nombreux collègues. La personne que j'admire probablement le plus à l'Université McGill, Mme Melner, enseigne aujourd'hui, fait de la recherche à 94 ans. Et elle est tout à fait bienvenue dans le département de neurosciences. C'est une pionnière de la mémoire dans la recherche internationale. Et quand vous lui parlez, elle a le feu sacré qu'elle avait, j'en suis certain, là, il y a 60 ans. Donc, pour nous, en tout cas, dans le niveau académique, on a ce luxe, cette possibilité-là. Mais mon doux, ça serait tellement agréable qu'on puisse savoir ça dans la société.
Oui. De toute façon, Jude Poirier, on ne veut pas que vous preniez votre retraite. On veut continuer à vous lire. Et ça a été un plaisir de le faire avec Jeunes et Centenaires chez Trécarie. Jude Poirier, je rappelle, vous êtes professeur titulaire à l'Université McGill et directeur de la recherche sur le vieillissement, la cognition et la maladie d'Alzheimer au Centre de recherche de l'Institut universitaire de santé mentale Douglas et l'installation du CIUS Ouest de l'île de Montréal. Jude Poirier, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Et dans la série sur les para-athlètes, à l'émission Accès libre, animée par Benoît Racette, Émilie Bouchard-Labonté nous parle de Cindy Ouellette, spécialiste de cross, mais qui s'est mise au ski de fond. Une place bientôt dans les Jeux paralympiques canadiens?
Avec nous, celle qui énergise avec des espoirs paralympiques, donc j'ai nommé Émilie Bouchard-Labonté. Bonjour! Bonjour, Émilie Bouchard-Labonté. Est-ce que vous êtes avec nous?
Oui, je suis là.
Bon, très content que vous ayez finalement descendu la côte jusqu'à notre téléphone. Comment ça va?
Ça va très bien, merci vous.
Ben oui, il semble que Tokyo est l'année prochaine, mais il y a une escale à Pyeongchang avant.
Oui, Tokyo, les Jeux paralympiques de 2020, mais les Jeux paralympiques d'été, mais pourquoi pas une escale à Pyeongchang l'an prochain pour les Jeux paralympiques d'hiver.
Ah, voilà.
C'est le but de Cindy Ouellette, qu'on connaît bien en basket en fauteuil roulant, qui est co-capitaine de l'équipe canadienne, mais donc pour des Jeux d'été, 3 Jeux d'été à son actif. Mais pourquoi pas une pointe vers l'hiver en ski paranordique cette fois.
Ah, bon, ben donc elle change un peu de discipline. Est-ce que c'est très différent? Oui, un peu.
C'est différent un peu parce qu'évidemment, elle n'est pas sur un fauteuil roulant, elle ne dribble pas du ballon,
mais
c'est quand même des mêmes particularités. Donc, comme c'est une athlète qui n'a pas de jambes, elle ne peut pas faire du ski de fond comme nous, les athlètes debout, on pourrait en faire. Donc, elle est sur une espèce de luge qu'elle pousse avec des bâtons.
Okay.
Donc, trois épreuves dans sa catégorie, le 1 km, un 2.1. Un 2 km et un 5 km au dernier championnat canadien de l'Est. Elle a gagné 3 médailles d'or.
Ah oui.
Donc, c'est la raison pour laquelle elle espère, si ça n'interfère pas trop avec sa carrière en basket en fauteuil roulant, puisqu'elle fait encore du basket en fauteuil, elle vise les Jeux de Tokyo, mm-hmm. elle espère peut-être aller à Pyeongchang en ski paranordique.
Ah, donc vous avez... Oh, c'est très sympathique, vous avez emprunté l'histoire de Cindy Ouellet pour nous faire comprendre là, qu'il y a des détours jusqu'à Tokyo. Mais donc... Pour revenir à Cindy Ouellet, qui effectivement peut à la fois participer à des Jeux d'hiver et des Jeux d'été, elle habite la Californie?
Oui, effectivement, puisque c'est une athlète qui est originaire de la ville de Québec à la base.
Okay.
Mais quand elle a gravi les échelons en basket en fauteuil roulant, elle s'est fait offrir une bourse pour jouer dans une équipe en basket en fauteuil à l'Université de l'Alabama, où elle a fait ses études, un bac et une maîtrise. Et ensuite, elle poursuit au doctorat à l'Université Southern California. Donc, c'est la raison pour laquelle elle est basée dans le sud des États-Unis, mais effectivement, elle représente toujours le Canada là, lorsqu'elle fait partie des événements.
Est-ce que c'est devenu la norme? On dirait que beaucoup des athlètes maintenant entreprennent vraiment des études universitaires super poussées. Est-ce que c'est parce qu'il y a une nécessité de dépassement à tous les niveaux ou…
Mais dans son cas, je crois bien qu'elle veut se garder occupée puisqu'elle pratique plusieurs sports puis elle poursuit dans ses études. Quand on a du succès généralement dans une discipline, ça peut aller dans d'autres disciplines aussi. Donc, tant au niveau scolaire, là, c'est le rendu au doctorat, c'est la même chose. Alors, en ingénierie biomédicale, il y a sûrement plusieurs recherches qui peuvent se poursuivre. Donc,
ah oui.
C'est dans cette branche-là qui est.
C'est ça, c'est pratiquement associé à la pratique du sport. Là. Ça pourrait l'être en tout cas.
Oui, on voit plusieurs athlètes des fois étudier en médecine en même temps que compétitionner. Je pense à des athlètes là, valides comme Frédéric Lambert en racquetball, qui est parmi les meilleures joueuses au monde en racquetball, mais qui poursuit des études en même temps en médecine. Donc c'est quand même assez commun de voir des athlètes qui cheminent qui ont du succès autant dans le sport que dans les études.
Bon, alors retournons, si vous permettez, au basket en fauteuil. On doit surveiller le Canada hein, dans ce secteur-là.
Oui, basket en fauteuil roulant, en fait, ça a été une grande déception pour les athlètes canadiennes lors des derniers Jeux paralympiques à Rio. Elles arrivaient là comme à titre de championnes du monde et elles n'ont même pas fait le podium, qui était leur objectif. Elles espéraient même gagner l'or et finalement, elles ont été éliminées en quart de finale à Rio. Alors, un nouveau cycle paralympique pour se reconstruire, pour reconstruire l'équipe. L'équipe canadienne, elle doit composer quand même avec plusieurs athlètes qui ont pris leur retraite.
Okay.
Cindy Ouellet, qui, elle, est encore co-capitaine de l'équipe nationale. Elle a décidé de poursuivre en pratiquant d'autres sports et en faisant peut-être une escale à Pyeongchang, comme on le disait, mais elle s'engage encore pour un autre 4 ans. Elle dit que le sport l'a tellement aidé, le basket en fauteuil roulant, sa carrière l'a beaucoup aidé, puis elle a envie de redonner aux jeunes, elle a envie de s'occuper de la relève avant à son tour de quitter l'équipe.
OK, donc on a quand même... dans l'équipe maintenue, cette leader qui va probablement reconstruire, refédérer les athlètes vers le basket en fauteuil.
Exactement. Il y a plusieurs autres athlètes québécoises sur l'équipe aussi. Hélène Allard, qui est une athlète aussi qui faisait partie de l'équipe nationale lorsque les filles ont gagné le championnat du monde en 2014,
n'a
pas été gardée pour l'équipe nationale cet été pour Rio, mais qui est de retour au sein de l'organisation maintenant.
Donc, c'est à surveiller. C'est à surveiller. Merci beaucoup, Émilie Bouchard-Labonté de Sportcom. Merci beaucoup.
Bonne journée.
Bonne journée.
C'est le National, deuxième partie animée pour vous par Clotilde Seille sur les ondes de Canal M. Oh, quand on voit passer les grands voiliers, on n'a qu'une hâte, c'est de pouvoir les visiter et même mieux naviguer dessus. Eh bien, figurez-vous qu'il va y avoir cet été, au mois de juillet, les grands voiliers qui vont revenir à l'occasion des 150 ans du Canada. Et deux bateaux vont être accessibles, dont un va être accessible à la navigation. Je vous en dis pas plus parce que Isabelle Ducharme, présidente du conseil d'administration de Kéroul, nous parle de tout cela. Lorsqu'on annonce quelque part autour du monde que les grands voiliers seront de retour, c'est toujours une excellente nouvelle parce que ces grands voiliers, ça fait rêver des millions et des millions de personnes. Mais lorsqu'on annonce qu'en plus, il y a un bateau qui va être accessible, alors là, nous, ça nous fait rêver encore plus. Et je vais pouvoir en parler avec Isabelle Ducharme, qui est la présidente du conseil d'administration de Kéroul. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Grosse nouvelle, hein?
Oui, en fait, c'est une excellente nouvelle de savoir que, un petit peu de mise en contexte, là, avec le 150e anniversaire du Canada, il y a eu une invitation à ce que, justement, de grands voiliers viennent au Québec. Donc, c'est une espèce de régate internationale qui va toucher 30 pays, qui va faire... toucher 6 pays, puis qui va toucher quand même 30 ports canadiens. Donc, c'est intéressant. Les gens sont intéressés à venir voir ça.
Et c'est vraiment féerique. Hein? Je dois dire que, écoutez, il faut que je vous avoue quelque chose, Isabelle. C'est que, pour l'instant, je n'en ai encore jamais vu de mes yeux, mais mon feu papa, je vais faire très vite, était un des organisateurs de cette venue des grands bateaux à un moment donné à Rouen, en Normandie. Et je peux vous dire que ça fait plus de... Regardez, j'ai ma montre ici qui en témoigne. Ils sont venus, entre autres, en 2008, parce que je porte encore une montre qui en témoigne. Et je peux vous dire que les gens, quand ils en parlent toujours avec des larmes dans les yeux. Je referme vite ma parenthèse personnelle, mais c'est pour inciter les gens à se déplacer à Québec.
C'est tellement beau. C'est des grands voiliers majestueux.
C'est magnifique.
Et à notre grand bonheur, quand ils seront accostés à Québec, il y aura aussi le Jubilee Sailing Trust, qui est un organisme à but non lucratif, qui sera présent. Et dans ce cas-ci, on parle de grands navires, de grands voiliers, hauturiers qui sont en bois, qui sont majestueux comme tous les autres, mais qui ont été spécifiquement adaptés pour être inclusifs pour tous.
Donc, il n'y en a pas un, il y en a deux.
Oui, en fait, il y a deux navires qui existent. Un qui s'appelle le Tenacious, qui est le plus grand navire en bois en exploitation au monde. Nous, on aura leur deuxième bateau, qui est le Lord Nelson. Mais dans les deux cas, les bateaux peuvent être utilisés par des marins de toute origine et de tout type de limitations ou pas. Donc, c'est un beau mélange de gens qui ont différentes limitations ou qui en ont pas. Tout de suite, par exemple, je dois vous dire, c'est une des rares fois où je vais vous parler de quelque chose que je n'ai pas fait, que je rêve de faire, mais que pour l'instant, je ne pourrai pas faire.
Allez-y donc.
Puisque c'est ouvert pour tout le monde, sauf les personnes en fauteuil roulant motorisé.
Ah.
Vous comprendrez que c'est en bois, que c'est un peu complexe. S'il fallait commencer à essayer de trouver des façons de brancher des fauteuils roulants, etc., ça deviendrait un peu complexe.
Mm-hmm.
Et sinon, c'est ouvert quand même aux personnes qui ont une déficience visuelle, personnes une déficience auditive.
Mm-hmm.
Et tout ça avec des gens aussi qui sont sur leurs deux pattes, comme on dit dans notre jargon.
Oui.
Et chacun est invité à participer quand on se déplace, parce qu'on peut faire un voyage en bateau.
Oui.
Ça peut être de quelques jours, une semaine, un mois.
Oui.
On devient soi-même un matelot. Donc, on participe à toutes les tâches. La seule condition de participer à cette expédition-là, c'est de s'impliquer. Et là, on va s'impliquer en fonction de nos capacités respectives.
Alors, c'est là où c'est fantastique, Isabelle, c'est que c'est pas juste une visite, vous allez naviguer.
Oui.
Ah.
Donc, pour ceux qui sont vraiment aventureux, il y a définitivement des possibilités de partir de différents points en Angleterre et en Australie de façon générale à tous les ans.
Mm-hmm.
Mais là, on a le bonheur d'avoir même une expédition qui va partir de Québec.
Bien sûr.
Après que le bateau ait été ancré, puisque le bateau sera disponible, il arrivera, je crois, le 19 juillet, mais le 20 et le 21 juillet. Les gens qui le veulent pourront aller le visiter.
Absolument. Il sera ouvert aux visiteurs 5 heures par jour.
Oui. Et à ce moment-là, quelqu'un comme moi, qui ne peut pas faire l'expédition, pourra au moins aller visiter le bateau.
Bon. Parce que là, au moins, à ce moment-là, comment dirais-je, ancré, il n'y a pas de problème pour les fauteuils motorisés.
Exactement.
Bon. Pardon pour mon ignorance, Isabelle, mais une personne, j'ouvre une autre parenthèse, qui est en fauteuil motorisé, à un moment donné ou à un autre, est-ce qu'elle ne peut pas, pour une circonstance comme celle-ci, revenir sur un fauteuil manuel?
Oui, oui, oui.
Elle pourrait,
dépendant. Moi, je vous dirais qu'il y a bien des années, je troquais mon fauteuil motorisé, mon fauteuil roulant motorisé pour mon fauteuil roulant manuel le temps d'un voyage dans le Sud.
Oui.
Parce que c'était moins compliqué d'aller en République dominicaine ou autre endroit.
Oui.
Mais aujourd'hui, avec l'âge, tout ça, je ne suis pas confortable dans un fauteuil roulant manuel.
Non, je comprends.
Je pourrais peut-être le faire le temps d'un souper, mais pas le temps d'un voyage d'un week-end ou d'une semaine.
Alors, ce voyage, il va durer combien de temps?
Celui qui va partir de Québec, c'est une expédition d'une semaine.
Une semaine.
Il y a quand même des choses à prendre en note aussi pour les gens qui sont un peu inquiets.
Oui.
Quand on arrive sur le bateau, tout de suite, on a une liste des choses qu'on va, une espèce d'horaire, là.
D'accord.
À quel moment on va être de garde, etc.
Mm-hmm.
Si on est un petit peu insécure, oui, mais comment ça va fonctionner, on peut être automatiquement pairé avec quelqu'un qui est un habitué ou
oui.
qui est plus confortable avec l'expédition. Donc, il y a toutes sortes de façons de rendre ça plus agréable, plus simple pour tout le monde.
Et plus sécuritaire pour rassurer et ceux qui sont à bord et ceux qui sont restés sur le quai.
Absolument. Et il y a aussi y a des cabines
oui.
qui sont vraiment conçues pour les personnes en fauteuil roulant pour être plus confortables quand on se couche, tout ça, que les cabines là, où tout le monde peut coucher ensemble parce qu'on est capable de grimper sur le lit qui est au deuxième étage et des choses comme ça.
Bon, Isabelle, j'imagine que les places seront rares et donc chères, chères au sens propre comme au figuré. Il y a sûrement un coût à cela.
Oui, en fait, le voyage, pour un voyage d'une semaine, là, c'est environ 1 400 $.
OK.
Mais on comprend qu'on est parti et on n'a pas d'autres dépenses à faire. Là.
Non,
on
c'est
est,
ça.
On est quand même bien équipé. Il y a un chef sur le bateau.
Oh.
Donc, on aura tous, si on a la capacité de couper des aliments ou d'aider à la cuisine, on aura tous un corps de travail où on ira aider à la cuisine.
D'accord.
Mais à la base, il y a un chef de renommée là, qui est sur place et donc on mange bien. Il
ne faut
pas penser que parce qu'on prend un voilier qu'on va manger juste de la goulash.
Genre en boîte, qu'on développe.
Oui, c'est ça. On boit du rhum et on mange de la goulash.
Oui, c'est
non,
ça.
Non, c'est quand même, ils sont bien équipés là, pour bon. Être bien ravitaillés.
Bon, ben écoutez, Isabelle, on peut s'inscrire comment et où? Est-ce qu'on peut
pour
encore s'inscrire?
Pour avoir plus d'informations, on peut aller sur le site de l'organisme comme tel qui est JST, comme Jean-Sophie Thomas, .org.uk. Et sinon, si on veut avoir d'informations sur tout ce qui a un rapport avec les voiliers qui s'en viennent au Canada, c'est RDV, comme pour rendez-vous,
oui.
2017.com.
OK. Il y a juste le JST. Ah oui, pour Jubilee Sailing Trust, c'est ça?
Exactement.
D'accord. Parfait. Ben, écoutez, Isabelle, quelle belle aventure. Moi, c'est certain que j'irai faire un saut à Québec, pour aller les voir, ces grands voiliers dont j'ai tellement entendu parler. Et je suis vraiment, mais tellement ravie, et nous sommes toutes et tous ici à Canal M, que certains d'entre vous puissent profiter de cette magnifique aventure. D'ailleurs, est-ce qu'on sait combien de personnes à peu près pourront monter sur le bateau?
Au total, je ne sais pas. Je sais
non.
que, d'après ce que j'ai vu, il y a à peu près 8 cabines adaptées, par contre.
D'accord. Bon. Alors, c'est déjà pas mal. Alors, oui. écoutez, ben, bravo à tous ces gens. Puis j'espère qu'on aura l'occasion d'en avoir des échos. Moi, je serai au poste cet été. Alors, j'espère bien qu'on aura l'occasion de pouvoir en reparler avec vous, même peut-être après la visite. Ce serait
oui.
sympa, ça. Et
avec
puis,
plaisir.
Hein, puis si on pouvait trouver quelqu'un qui ait fait ce tour de bateau, ben, on aimerait beaucoup naviguer avec elle.
Moi, je garderai le contact avec les organisateurs pour ça.
Merci beaucoup, Isabelle. Bonne fin de journée.
Merci, vous aussi.
Allez, au revoir. Isabelle Ducharme. Au revoir. C'était dans le cadre de l'émission Les Par Actualités que j'anime pour vous toute la semaine et celle-ci, c'était le 14 mars, cette entrevue-là. Une autre maintenant avec Jennifer Héroux-Bourdua, qui est coordonnatrice principale au programme et services de la Société canadienne de la sclérose en plaques, division du Québec. Nous parlons de l'usage de questionnaires discriminatoires et de discrimination à l'embauche en général. Il y a eu récemment, pour reprendre depuis le début, il y avait un questionnaire de pré-embauche que l'on apportait, on forçait des gens malades à répondre à ce questionnaire-là, mais plusieurs organismes se sont élevés en disant que c'était absolument discriminatoire. Moralité, la Commission des droits de la personne et de la jeunesse a effectivement déclaré que ce genre de questionnaire n'avait pas lieu d'être et j'ai au bout du fil la coordonnatrice principale au programme et services de la Société canadienne de la sclérose en plaques, division du Québec, Jennifer Héroux-Bourdua, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est une décision qui doit vous satisfaire, hein, évidemment, mais je voudrais d'abord qu'on revienne sur ce formulaire-là. Qu'est-ce qu'il y avait comme question qui vous semblait totalement discriminatoire?
Ben en fait, concernant cette décision-là, c'est vraiment la décision a été rendue suite à un cas particulier, donc
oui.
Au CIS c'est I3S des Laurentides.
Oui.
Donc, et puis cette personne-là avait dû répondre à des questions générales sur sa santé, dont liées à sa condition donc précise à cette personne-là. Donc, les questions sont assez générales, donc mm-hmm. ça peut pas porter sur la condition neurologique, mm-hmm. Sur d'autres conditions de santé, voire même à savoir est-ce que vous avez déjà consulté un médecin spécialiste dans telle ou telle situation. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, par rapport à cette situation-là, la décision a été rendue quant à ce cas-là. Par contre, c'est sûr que nous, oui, on se réjouit de cette décision. Par contre, c'est sûr que il y a encore beaucoup de travail à faire parce oui. qu'on veut que ces questionnaires-là, cette pratique-là, soit abolie finalement.
Abolie.
Là, donc, oui, exactement.
Exactement.
Par tous les employeurs finalement, pas seulement que ceux du réseau de la santé et des services sociaux.
Mm-hmm. À quel niveau les gens atteints de sclérose en plaques sont-ils victimes de discrimination au niveau de l'embauche?
Ben, écoutez, à la Société canadienne de sclérose en plaques, là, nous, il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'on entende des questions en lien avec les droits en matière d'emploi et particulièrement en lien avec la discrimination pré-embauche. Généralement, on diagnostique la sclérose en plaques là, entre 15 et 40 ans, soit pendant la période active là, sur le marché du travail. Puis, il faut savoir qu'être atteint de sclérose en plaques, ben ça se voit pas nécessairement au début de la maladie. Donc, la personne est active, peut travailler, faire tout ce qu'elle peut faire, tout ce qu'elle souhaite faire, elle peut le faire. Donc, les gens doivent partir à la recherche d'un emploi et se butent à ce moment-là à des questionnaires pré-embauche où on leur demande s'ils sont atteints de maladies neurologiques ou même s'ils ont déjà consulté un neurologue. Mm. Donc, à ce moment-là, ben, c'est sûr que ces gens-là se voient discriminés. Là,
Bien sûr, parce que là, bon, on parle d'un moyen ou à long terme, ces gens-là seront peut-être encore, pourront encore travailler, mais par contre, peut-être qu'ils vont devoir avoir un fauteuil roulant pour se déplacer. Donc,
il y en a qui se rendent là, il y en a qui ne se rendront jamais non plus là. Oui,
on
exactement, qui vont même pouvoir faire toute leur vie active, oui. donc travailler jusqu'à la retraite, mm-hmm. en ayant, oui, certaines difficultés, mais toujours capable de fonctionner. Mm-hmm. Sauf qu'en répondant, à ces questions-là, ben, ils se mettent une étiquette et deviennent alors vraiment pas attirants pour l'employeur
oui.
parce qu'il voit l'employeur va juste voir les potentiels problèmes à venir comme l'absentéisme et le coût des assurances collectives qui augmente à cause des coûts des médicaments.
Imaginons qu'on demande à toutes les femmes est-ce que vous pensez tomber enceinte dans les 5 prochaines années?
Exactement. Oui, c'est un peu le même genre de discrimination.
C'est un peu exactement parce qu'à ce moment-là, alors on va plutôt écoutez, donc c'est un dossier à suivre, évidemment, oui. mais en ce moment, en ce qui concerne la sclérose en plaques, est-ce que vous avez l'impression qu'on avance dans ce dossier-là, sur la connaissance d'abord de la maladie? On entend tellement de choses. Écoutez,
oui.
moi qui suis dans le domaine, il y a une journée où j'ai l'impression qu'on a trouvé le produit miracle.
Oui.
Le lendemain, on a trouvé la solution miracle et puis, non, faites surtout pas ça parce que c'est dangereux. Enfin bref,
oui.
on ne sait plus à quel...
Oui, c'est ça, exactement. C'est une maladie qui touche beaucoup l'imaginaire aussi des gens, je pense. Donc,
oui.
C'est sûr qu'à ce niveau-là, ça peut frapper les gens et tout de suite, imaginer la personne en fauteuil roulant ou en CHSLD, par exemple. Mm. Alors qu'il faut comprendre que la sclérose en plaques a vraiment 1000 visages. Là, donc, c'est vraiment, chaque personne a sa spécificité.
Oui.
Sa particularité.
Bien sûr.
Au niveau des traitements et de tout ça, c'est sûr que c'est important de se fier à des sources fiables. Donc, c'est sûr que nous, sur le site de la sclérose en plaques, donc scléroseenplaques.ca, on affiche régulièrement les résultats des recherches. Mais c'est certain que plein d'articles sortent à tout moment, à savoir que telle chose chose va guérir la sclérose en plaques. Faut comprendre que la sclérose en plaques est étudiée à travers le monde.
Oui.
C'est un sujet assez chaud. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont préoccupés par cette maladie-là. Donc, mais toujours se fier à des sources fiables pour voir. Présentement, ce qui est bon de savoir, c'est qu'il y a 12 traitements qui sont qui visent à ralentir la maladie. Donc et pour savoir l'évolution des prochains traitements, c'est sûr que oui, il faut se fier là, par exemple à au site scléroseenplaques.ca où on a vraiment une rubrique où on voit tous les traitements qui sont en cours de recherche et qui sont éventuellement sortis.
Bon, et puis écoutez, j'ai une question pour finir. Je vous demande, bon, pour les quelques secondes qui nous restent, mais vous allez peut-être me trouver, mais tant pis, je la pose. Est-ce que le fait de travailler psychologiquement peut aider quelqu'un atteint de sclérose en plaques? Je ne suis pas en train de vous dire que c'est dans la tête que ça se passe et que entendez-moi bien, mais je me dis, est-ce que le fait de travailler, d'être utile, de ramener de l'argent à la maison, si ça ne peut peut-être pas freiner la maladie en tant que telle, parce que je pense qu'il n'y a pas grand-chose pour faire contre ça, mais au moins quand même psychologiquement, c'est important, non?
Dans un contexte de travail sain, c'est-à-dire où on a un employeur qui serait au fait de ce qu'est la maladie et des exigences, c'est-à-dire que le niveau d'énergie est variable, il y a une gestion de l'énergie à faire et tout ça, oui, ça pourrait assurément aider, puis tout le monde va on est pour la vertu, hein, on veut que les gens se développent et s'épanouissent. Par contre, malheureusement, ce qui freine les gens souvent à continuer leur emploi, c'est souvent des conditions de travail pas adaptées avec leur maladie, ce qui fait que finalement, ils peuvent pas continuer parce qu'ils peuvent pas, par exemple, tomber à temps partiel ou ils peuvent pas réduire leurs heures de travail dans la journée. Donc, oui, c'est sûr que tous les médecins sont pour ce que les gens continuent à être actifs. Bon, comme je dis, c'est ça.
C'est ça. Sauf que là, ils se heurtent à ce que l'on sait.
Du marché du travail.
Bon, ben écoutez, Madame Héroux Bourdua de la Société canadienne de la sclérose en plaques, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et puis, bonne fin de journée.
Merci, vous aussi.
Au plaisir. Et pour finir, encore une fois, dans les paractualités, peut-être aviez-vous manqué cette entrevue, ma foi, qui me semble passionnante et qui nous concerne en premier chef, puisqu'on parle d'une autre maladie de l'œil dans le cadre de la Semaine mondiale du glaucome. Et on parle de cette maladie avec Marc Renault, le cofondateur du Centre d'information sur le glaucome. Écoutez bien. Le saviez-vous, c'est la Semaine mondiale du glaucome, mais je suis très, très contente en cette occasion de pouvoir m'entretenir avec Marc Renault, qui est cofondateur du Centre d'information sur le glaucome. Bonjour, Monsieur Renault.
Bonjour, Mme Sahel, comment allez-vous?
Mais ça va très, très bien, je vous remercie. Oui, le mot glaucome, c'est un mot qui fait peur et pourtant on a l'impression que finalement peu de gens s'y intéressent. Est-ce que c'est une bonne perception de ma part, M. Renault?
Tu as tout à fait raison. C'est une maladie asymptomatique. Alors, on n'a pas une tendance à en parler beaucoup. On parle beaucoup plus de la DMLA ces temps-ci, qui est la première cause là, de cécité. Mais la deuxième cause au monde et aussi en Amérique du Nord, c'est quand même le glaucome. Mais c'est une maladie qui ne présente pas de symptômes, on n'en parle pas vraiment beaucoup. Alors, encore une fois, merci de nous accueillir aujourd'hui.
Ah, mais de rien, M. Renault. Alors, j'imagine que vous, en tant que cofondateur du Centre d'information sur le glaucome, vous êtes là justement pour sensibiliser et informer la population vieillissante?
Toute la population.
Oui, d'accord.
Parce que c'est une maladie qui est détectée généralement vers l'âge de 40-45 ans, c'est à peu près 2,3% de la population. Mais comme il y a une composante avec l'âge, rendu à l'âge de 80 ans, on peut se retrouver avec près de 11% de la population qui est susceptible de développer un glaucome. Donc, c'est important de dire aux gens d'aller se faire vérifier les yeux, la vision, de façon régulière.
Mais est-ce qu'on peut voir à l'œil nu s'il y a glaucome ou pas? Peut-être pas au début.
À part d'exception, là, non, il n'y a vraiment pas de symptômes. La seule façon, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est détecté vers l'âge souvent de 40-45 ans, c'est souvent à l'âge où même les gens qui n'ont jamais eu besoin de lunettes vont arriver à un point où là, leurs bras sont plus assez longs pour être capables de lire.
Oui,
alors ils disent, bon, ben là, il faut que j'aille voir pour la première fois de ma vie un optométriste. Et c'est là où on peut détecter. Alors, on détecte ça par une vérification de la pression intraoculaire, en regardant à l'intérieur de l'œil et tout le reste. Mais c'est vraiment un praticien là, qui va pouvoir...
Oui, oui, oui. Est-ce que vous appelez cette pression-là, c'est quand on va chez notre... optométriste, là, qu'on nous fait comme un jet, hein, assez...
Il y a différentes façons de le faire, mais oui, il y a l'espèce de petit jet
oui,
d'air.
Oui, c'est ça, d'accord, absolument. Oui, qu'on reçoit dans les yeux. OK. Vous appelez ça le voleur silencieux, le glaucome. Expliquez-nous pourquoi.
Pour vos auditeurs et auditrices qui ont déjà fait des cataractes, ils vont certainement se souvenir qu'ils étaient les premiers à savoir qu'il y avait un problème avec leurs yeux. C'est-à-dire que la vision devient de plus en plus embrouillée, de plus en plus jaunâtre. C'est un peu comme regarder à travers une vitre sale. On dit « Ah, je vois moins bien, même avec mes lunettes, je vais aller consulter. Mm-hmm. » Donc, ils savent, il y a un symptôme.
Ouais.
Quelqu'un qui fait de la DMLA ou de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, eux vont, par exemple, s'apercevoir que la vision centrale commence à être un peu plus embrouillée ou les lignes sont un peu courbées, quelque chose qui ne va pas. Ils vont aller consulter. Mais dans le cas du glaucome, le glaucome s'attaque à votre vision périphérique. Donc, on n'est pas très conscient de cette vision périphérique-là.
Okay.
Et il se peut qu'avec le temps et avec l'âge, tout ce qui peut arriver, c'est que cette vision-là risque de disparaître. Et quand on s'en aperçoit, il est souvent assez tard, parce que ce qu'on perd avec le glaucome, on ne récupère jamais. Le glaucome est la première cause de cécité irréversible.
Oui,
et c'est ça pourquoi c'est tellement important de faire de la sensibilisation.
C'est parce que, bon, la cataracte, en ce moment, on en parle beaucoup, et il y a beaucoup de gens, même de plus en plus jeunes, hein, qui se font opérer, et écoutez, j'en ai autour de moi, ils ont l'impression que tout d'un coup, ils retrouvent la vue, presque. Mais le glaucome, qu'est-ce qu'on peut faire?
Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est premièrement un bon suivi médical. Alors, si on découvre ou quelqu'un découvre qu'on fait du glaucome, la première chose, c'est que, dépendamment du type de glaucome, c'est plusieurs types de glaucome, le médecin va peut-être en première ligne suggérer, dans certains cas, un traitement de laser. Ou dans d'autres cas, on va suggérer d'utiliser des gouttes. Et les gouttes ophtalmiques vont bien contrôler la pression. Dans le fond, comme c'est une maladie qui ne se guérit pas, c'est un autre point qui est très important, le glaucome ne se guérit pas.
Ne se guérit pas.
Exactement. Alors, tout ce qu'on peut faire, c'est d'agir sur la pression à l'intérieur de nos yeux. Et on a plusieurs outils pour le faire. Donc, on parlait de traitement de laser, on parle aussi des gouttes ophtalmiques, on parle peut-être de chirurgie. Mais tout ça, c'est fait pour contrôler la maladie. Mais une fois qu'on la contrôle, à ce moment-là, on n'a qu'à suivre nos traitements régulièrement et aussi de faire les tests et de rencontrer notre médecin aussi régulièrement. Mais le problème pour toute maladie asymptomatique, et je compte là-dedans, par exemple, les problèmes d'hypertension artérielle, ou encore les problèmes de cholestérolémie, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de symptômes. Donc, souvent, les gens vont avoir une tendance à peut-être à négliger les tests parce qu'ils vont bien. Parce que vous allez avoir une vision parfaite avec le glaucome pendant très longtemps. Elle ne s'attaque pas à la vision centrale. Alors, au bout de la ligne, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens ont une tendance à négliger ou parce qu'ils se sentent bien, ils vont dire « Ah, ben je prends pas mes gouttes » ou bon, il y a toutes sortes de raisons. Il y a à peu près 73 barrières à l'utilisation des médicaments qui ont été identifiés d'une façon pour les maladies asymptomatiques. Et dans ces maladies-là, on s'aperçoit que certaines statistiques vont démontrer qu'au-delà de 55% et jusqu'à 70% des gens qui sont suivis ne prennent pas leurs médicaments correctement. Donc, il y a tout l'aspect sensibilisation, mais aussi tout l'aspect éducation. Et c'est sur ça que nous, on s'adresse au Centre d'information sur le glaucome McGill à l'Hôpital Général Juif.
D'accord. Alors, deux choses juste pour finir. L'hérédité, est-ce que c'est important là-dedans? Est-ce que le facteur héréditaire est un facteur de risque supplémentaire?
C'est un facteur de risque supplémentaire, mais il n'est pas unique. Et dans ce sens-là, si quelqu'un fait déjà du glaucome, c'est important que le reste de la famille le sache, les enfants, les petits-enfants, mais ça ne veut pas dire automatiquement que quelqu'un va avoir ou faire du glaucome.
Parfait. Et puis, écoutez, pour finir, M. Renaud, je voudrais que vous nous rappeliez très précisément comment peut-on se rendre au Centre d'information sur le glaucome. J'imagine que vous avez un site Internet. Voudriez-vous nous le redonner, s'il vous plaît?
Absolument. Depuis 2006, nous sommes le seul centre au Canada qui offre une session d'information, un mini-cours médical sur cette maladie-là, qui est ouverte à toute la population. Vous n'avez pas besoin d'être une personne qui fait le glaucome. Vous n'êtes pas obligé d'être un patient de l'Hôpital Général Juif. Au contraire, tout le monde est bienvenu. On a des gens qui viennent de Québec et d'Ottawa pour nos sessions.
Okay.
Et ce qu'on fait, c'est qu'on prend le temps d'expliquer ce qu'on n'a plus vraiment le temps dans les hôpitaux, d'ailleurs, d'expliquer la maladie, ses composantes, comment utiliser les gouttes et les médicaments. Ça, c'est aussi un autre problème. Et on a toujours un médecin sur place à la fin pour répondre à toutes les questions. Alors, on peut nous rejoindre pour nos sessions d'information,
oui,
qui sont mensuellement,
oui,
soit en français et on alterne avec l'anglais.
D'accord.
On peut s'informer en appelant au 514-340-8222,
oui,
au poste 24954.
Oui.
Ou encore, on peut consulter notre site HGJ.
HGJ,
.ca,
oui,
/ glaucome.
D'accord.
Et à ce moment-là, vous allez avoir accès non seulement à toute notre calendrier de conférences et de sessions, mais vous allez avoir accès aussi à des petits DVD d'informations sur,
parfait,
justement la maladie et l'utilisation des gouttes et des médicaments.
Parfait. Mais écoutez, je peux vous dire de toute façon qu'au niveau du site Internet, il va se retrouver sur notre site à nous pour que les gens qui viennent d'écouter cette entrevue, qui n'auraient peut-être pas justement eu le temps de pouvoir noter cela, eh bien, ils vont avoir l'occasion de pouvoir vous joindre assez facilement. Monsieur Renaud, on a pris un petit peu plus de temps, mais je pense qu'il était essentiel que nous parlions de ce voleur silencieux qu'est le glaucome. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions.
Et c'est moi qui vous remercie de nous avoir donné cette chance, madame.
Je vous en prie. Bonne fin de journée.
Au revoir.
Voilà, c'est ainsi que va se refermer ce magazine Le National, présenté pour vous cette semaine encore par Clotilde Seille. Je voudrais remercier toute l'équipe qui rend possible cette émission, mais remercier aussi de toute façon toute l'équipe de Canal M qui travaille très fort à produire des émissions variées et toutes instructives et parfois sympathiques et drôles pour vous. Alors parlez-en autour de vous parce que Canal M, c'est unique et c'est important. Pour plus d'informations, pour écouter nos émissions ou nos entrevues, vous savez que vous pouvez aller visiter canalm.vusezvoix.com. Comme ça, vous pourrez réécouter tout cela quand bon vous semble. Allez, à la semaine prochaine.